VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriac au micro pour ce bulletin d'information. République démocratique du Congo, les autorités de la province de Kinshasa se sont justifiées aujourd'hui de l'existence d'une fosse commune dans l'ouest de la ville, affirmant que les corps enterrés étaient en majorité des fœtus et des morts-nés. Une mise au point destinée à faire taire une rumeur sur la présence d'éventuels opposants politiques parmi les cadavres. L'AFP cite une déclaration de Robert Louzo-Lanou Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa, selon laquelle la fosse contiendrait 300 morts-nés et des fœtus abandonnés. 23 corps qui ont été abandonnés, des indigents au nombre de 34 et 64 personnes non identifiées. Selon M. Mavema, l'enterrement collectif est une pratique courante. Retour ce soir sur l'enlèvement samedi d'un étranger dans le nord du Burkina Faso. Bagassi Koura, ce soir, on apprend que les recherches se concentrent dans le nord Mali.
Le gouvernement burkinabé avait indiqué samedi soir dans un communiqué que les ravisseurs avaient pris la fuite vers la frontière du Niger. Eh bien aujourd'hui, un haut gradé de l'armée burkinabé a affirmé à VOA Afrique que les ravisseurs ont traversé le fleuve Niger et se trouvent désormais dans le nord du Mali où les recherches sont désormais concentrées. Le fait qu'aucun groupe n'ait revendiqué l'enlèvement jusqu'à ce jour rend ces recherches très compliquées selon cet officier, membre de la cellule de crise mise en place par les autorités burkinabées. Il affirme que des renforts de l'unité antiterroriste du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde de Blaise Compaoré, ont été dépêchés sur place, de même qu'une unité de paracommando de Bobo Dioulasso. Nous bénéficions du soutien de l'opération Barkhane, dit l'officier burkinabé. L'otage en question est Gergout Lilian, 39 ans. Selon l'officier burkinabé, c'est un Roumain, ancien légionnaire français. Des sources au Quai d'Orsay et au sein du ministère français de la Défense affirment que l'otage n'est pas de nationalité française. Il était chargé de la sécurité de la mine de Tambao, la plus importante mine de manganèse du Burkina Faso.
Vague d'arrestations au Burkina. Une demi-douzaine de proches de l'ex-président Blaise Compaoré ont été arrêtés depuis hier, alors qu'un projet de loi excluant les membres de son régime des élections d'octobre devait être voté aujourd'hui même. C'est en tout cas ce que rapporte l'ancien parti au pouvoir qui dénonce un harcèlement des autorités. La police les soupçonne de vouloir préparer une insurrection à partir de Bobo Dioulasso à propos de ce vote, estime le CDP. Parmi eux, il y aurait trois anciens ministres, Jérôme Bougouma, ex-ministre de la Sécurité, Jean-Bertin Ouédraogo, qui était aux infrastructures, et Salif Kabore, en charge anciennement des mines. Ces arrestations confirmées par deux sources sécuritaires sous couvert d'anonymat. Au Mali, le Néerlandais Jacques Richke est arrivé aujourd'hui à Bamako. Otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011, il a été libéré hier à l'aube par l'armée française près de Tessalit, dans l'extrême nord du Mali. Au Kenya, un sixième suspect était interrogé aujourd'hui par la police après le massacre de l'université de Garissa la semaine dernière. Les autorités détiennent désormais cinq Kenyans et un Tanzanien accusés d'avoir aidé le commando ayant mené l'attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. La justice a prolongé de 30 jours la garde à vue et des six hommes. Et au troisième jour du deuil national décrété au Kenya, plus de 200 étudiants sont descendus dans les rues de Nairobi ce matin pour dénoncer ce qu'ils appellent l'incapacité du gouvernement à protéger sa population. C'est visiblement un sentiment de colère qui règne aujourd'hui dans le pays. Salwa Jafari.
Une foule en colère, non pas marchant, mais courant à travers les principales artères de Nairobi. La plupart vêtus en noir pour rendre hommage à leurs camarades tombés sous les balles. Mais au-delà de la tristesse, c'est la colère qui animait aujourd'hui le cortège. Les manifestants se sont arrêtés au seuil du bâtiment de la présidence pour se faire entendre. Ils demandent réparation, compensation, une meilleure sécurité sur le campus et ailleurs.
Nous devons mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il soit plus sérieux en ce qui concerne notre sécurité. Nous ne nous sentons plus sûrs.
Les forces de la police sont partout. À chaque fois qu'ils s'approchent des manifestants, la colère monte d'un cran. Où étiez-vous ? Crie-t-il. La police, en tout cas, vient d'arrêter un sixième suspect et interroge désormais 5 Kenyans et un Tanzanien. Et pour ne rien laisser échapper, les autorités kenyanes ont même promis une récompense de plus de $200,000 pour la capture de celui qu'elles présentent comme le cerveau de l'attaque, Mohamed Mohamoud, alias Kuno.
4 soldats tunisiens ont été tués aujourd'hui et 8 autres blessés dans une embuscade dans la région de Kasserine, une zone d'activité de djihadistes armés dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale Watania 1, citant le ministère de la Défense.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, un premier avion transportant du personnel médical du Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Sanaa, la capitale du Yémen. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui dans un tweet le directeur des opérations du CICR. Selon une porte-parole de l'organisation, un avion cargo chargé d'aide médicale, actuellement en attente à Amman en Jordanie, et devrait très bientôt décoller pour le Yémen. Les précisions de Michel Joseph.
La situation humanitaire du pays est jugée alarmante après près de 2 semaines de frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les positions des rebelles chiites. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux et cliniques sont en train de diminuer au Yémen, où les populations souffrent en outre de pénuries de carburant et d'eau, alors même que les stocks de nourriture se raréfient. Le CICR avait appelé samedi à une trêve humanitaire de 24 heures. 3 volontaires du Croissant-Rouge ont été tués la semaine dernière après avoir été pris pour cible alors qu'ils venaient en aide à des blessés. D'autre part, et selon l'UNICEF, le conflit a fait une centaine de milliers de déplacés pendant que l'on continue de faire courir des risques de maladie aux enfants lorsqu'ils ne sont pas tués ou mutilés.
À New York, les autorités ont appréhendé une 4e personne soupçonnée de vouloir soutenir le groupe État islamique. Edil Kayot Kassimov, un New-Yorkais de 26 ans, est accusé d'avoir voulu se rendre en Syrie dans le but de participer au djihad violent, selon le département américain de la justice. 3 autres suspects ont récemment plaidé non coupables pour des poursuites identiques. Un verdict de culpabilité à l'encontre de Kassimov entraînerait jusqu'à 30 ans de prison. Il doit comparaître le 8 avril. Phase décisive dans le procès Zohar Tsarnaev, unique accusé dans les attentats du marathon de Boston. Les délibérations du jury ont commencé aujourd'hui. Le verdict de culpabilité est quasi certain. Félix Yepassi Zembrou.
En effet, la culpabilité de Zohar Tsarnaev ne fait pratiquement aucun doute. Même la défense a reconnu sa participation dans les attentats du 15 avril 2013 qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés. Ce qui est en jeu, c'est la peine encourue par l'accusé. En fait, 17 des 30 chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort. Les 12 jurés doivent tout de même décider si le jeune Tsarnaev est coupable ou non de chacun de ces chefs d'accusation. À signaler que la phase du procès consacrée au prononcé de la peine ne débutera qu'après le verdict. Dans son argument final, la défense a fait valoir hier que le cerveau des crimes reprochés à son client était plutôt Tamerlan Tsarnaev, le frère aîné de Zohar, mort dans un échange de tirs avec la police. Il a fabriqué les bombes et planifié l'attaque, a déclaré l'avocate Judy Clark. Mais durant tout le procès, l'accusation s'est attachée à décrire le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain depuis 2012, tout simplement comme un terroriste.
À Moscou, des centaines de personnes ont rendu hommage ce mardi à l'opposant Boris Nemtsov, assassiné en février dernier devant le Kremlin. Sur place, un des leaders de l'opposition, Vladimir Ryzkov, a critiqué l'enquête en cours. 40 jours après le meurtre de Nemtsov, on ne connaît toujours pas qui l'a tué ou qui a ordonné de le tuer, a-t-il dit. Avant sa mort, il faut savoir que Boris Nemtsov préparait un rapport sur l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien. Ce rapport pourrait être publié d'ici la fin du mois par un des proches, Ilyan Yashin.
Soyez au cœur.